Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Troisième épisode de l'émission Des clés pour vivre. Au micro, vous découvrez Don Félix-Henri Bouquet-Deschaux de la communauté Saint-Martin, auteur de ce premier livre paru aux éditions du Cercle. La vérité a-t-elle besoin de la foi? Chers auditeurs, je vous conseille un peu la lecture. Donc soyez curieux. Et puis si vous avez soif de vérité, de questionnement et puis peut-être d'aboutir à quelques réponses, découvrez cet ouvrage. Ces chapitres, vous consacrez aussi à... Donc il y a un chapitre sur aussi la question que je pourrais tout simplement vous poser, croire et savoir, quelle différence? Alors on vous interroge, Don Félix-Henri, quelle est la différence entre le savoir et puis au fond le croire?
Alors je réponds à la question en deux minutes, mais ça vous dispensera pas bien entendu de lire le chapitre. Non, blague à part, en fait, la différence tient à un petit préfixe, comme je l'explique, c'est que la différence entre la croyance et le savoir scientifique, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est leur objet. C'est-à-dire que l'objet du savoir scientifique, c'est un objet qui est démontrable, alors que l'objet de la croyance est un objet qui est indémontrable. Et voilà le préfixe, indémontrable. Et c'est ça qui change tout. À la limite, en fait, les deux chemins sont deux chemins qui mènent non pas à Rome, mais au même résultat, la vérité. À la fois, le savoir, qui est un objet démontrable, et la croyance, qui est un objet indémontrable, mènent tous deux à la vérité. Et il y a même, ça c'est saint Thomas d'Aquin qui le dit, il y a même certaines vérités qui sont sues par certains et crues par d'autres. Par exemple, la Terre est ronde, c'est une vérité scientifique, mais moi je ne le sais pas. Je crois les scientifiques qui me disent qu'elle est ronde, parce que je ne suis pas en capacité de faire la démonstration de la rotondité de la Terre. Et au fond, si on réfléchit bien, il y a assez peu de vérités que nous savons, ou en tout cas que nous tenons comme vrai et que nous pourrions démontrer scientifiquement. Je pense que, à part quelques scientifiques sur Terre, la majeure partie des vérités auxquelles nous adhérerons et qui nous permettent de faire des choix dans notre vie sont des vérités que nous n'avons jamais démontrées. Et c'est plus facile pour tout le monde, en fait.
Quel était le défi pour vous dans l'écriture de ce livre? Et quel était le défi et puis, au fond, l'objectif pour vous, Don Félix-Henri?
L'objectif, c'était de réhabiliter la croyance. Pas seulement la croyance religieuse, mais la croyance tout court, la réhabiliter en montrant que c'était rationnel de croire. Puisqu'on est à une époque où on pourrait mettre en doute la rationalité de la croyance, notamment parce qu'on voit fleurir tout un tas d'opinions un peu farfelues, notamment sur les réseaux sociaux, puisqu'on en parlait, de personnes qui disent que la Terre est plate, que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, et que sais-je encore. Et donc, face à ces opinions-là, on pourrait se dire que ça vient décrédibiliser toute forme de croyance. Et donc, c'était ça un peu l'objectif, c'était de montrer que non, c'est rationnel et c'est humain de croire, et que c'est le chemin le plus court pour parvenir à la vérité, c'est la croyance. Ne serait-ce que dans notre vie de tous les jours, encore une fois, comme on le disait il y a deux jours, je suis entré, je vous ai dit que je m'appelais Don Félix-Henri, vous ne m'avez pas demandé ma carte d'identité, vous m'avez cru. Donc vous avez adhéré à cette vérité-là en ayant foi dans ma parole. Et c'est là où je ferai même un pas de plus, et c'est peut-être l'autre objectif, c'était de démontrer que, paradoxalement, il est plus humanisant d'adhérer à une vérité en y croyant qu'en la démontrant scientifiquement. Pourquoi? Parce que pour croire à une vérité, ça implique deux choses. Premièrement, ça implique notre liberté, c'est-à-dire la liberté fondamentale, là où la vérité scientifique, elle, comme elle est démontrable, elle ne me laisse pas libre face aux résultats. C'est-à-dire que si je suis d'accord avec toute la démonstration de M. Thalès, à la fin, je suis forcément d'accord avec lui. C'est obligé. Je suis pas libre. Je suis contraint d'adhérer à sa conclusion. Ce qui n'est pas le cas dans le domaine de la croyance. Vous auriez très bien pu refuser de croire, de me faire confiance lorsque je vous ai dit que je m'appelais Félix-Henri. Donc ça, c'est que la croyance préserve la liberté. Et deuxième point fondamental, c'est que la croyance implique la relation à l'autre. la relation de confiance à l'autre. Et c'est en cela qu'elle est très humanisante, là où un scientifique peut très bien réussir tout seul, en restant enfermé dans son laboratoire de science. Mmh. Alors bien sûr, on pourrait objecter que le scientifique a besoin de lire des livres, et donc par là, il rentre en relation avec l'auteur de ces livres. Mais en fait, même à ça, on pourrait répondre. Il y a un film qui est sorti, j'en parle dans le livre, d'un mathématicien indien qui n'a jamais vraiment eu accès, qui était très pauvre, qui vivait dans les rues de Calcutta, qui n'a jamais vraiment eu accès à des livres mathématiques et qui était un génie des mathématiques, qui est allé en Angleterre, etc., et qui a démontré des théorèmes qu'on n'avait jamais su démontrer jusque-là. Donc, en fait, on peut très bien être un savant seul, mais on ne peut pas être un croyant seul. La croyance, quel que soit le niveau de la croyance, implique la relation à l'autre et implique de faire confiance à l'autre. Et c'est pour ça que je pense qu'il est plus humanisant d'accéder à une vérité en y croyant, en croyant à la parole de l'autre, qu'en la démontrant, c'est-à-dire en la vérifiant par nous-mêmes.
Donc le résultat, la synthèse, c'est que la démonstration est plus difficile, alors qu'au fond, mais ça peut être aussi toute la difficulté d'entrer en relation. On ne sait pas toujours comment entrer dans cette relation, et puis on ne sait pas toujours, parce qu'il y a peut-être la peur, il y a peut-être la méfiance. Vous avez parlé aussi, il y a un instant, de la confiance. Il est difficile aujourd'hui, dans le quotidien de nos vies, je pense à ceux et celles qui vous écoutent, dont Félix Henry, de donner sa confiance à l'autre. L'autre qui a parfois trahi, l'autre qui a parfois déçu, l'autre qui n'a pas tenu sa promesse. Voilà, je suis en relation, mais ma relation est mise à dure épreuve et on est en difficulté. Donc, je vous écoute.
Oui, tout à fait. Effectivement, j'allais rebondir pour dire que effectivement, la difficulté à l'heure actuelle, c'est à qui peut-on encore faire confiance ? La récente crise des abus dans l'Église est venu confirmer le fait que des prêtres qui avaient une aura importante, en qui on avait fait confiance, à qui on avait confié nos enfants, à qui on avait fait confiance pour guider notre vie, eh bien, n'ont pas été à la hauteur de la confiance qu'on leur avait donnée. Beaucoup de personnes se sont senties trahies, et à juste titre, par des prêtres qui ont chuté lourdement en blessant beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants et leur entourage. Donc effectivement, la question se pose, à qui puis-je faire confiance ? Et donc ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a au moins une personne qui ne trahira jamais cette confiance, c'est le Christ, la personne du Christ. Et en lui, on peut faire confiance, on peut lui donner notre vie, on peut lui donner toute notre foi, il ne nous trahira jamais. Et ça, on a l'exemple de plein de saints qui témoignent de ça. Là, je suis en train de lire une biographie de Charles de Foucault. Et c'est il est, quand il est apparu, il a découvert l'existence du Christ dans sa vie, il lui a tout donné. Il lui a fait une confiance absolue. Et non, le Christ, lui, ne déçoit pas la confiance qu'on lui fait dans la parole qu'il nous donne.
Vous nommez aussi à plusieurs reprises, puisqu'on parle du Christ et qu'on parle de cette relation à l'autre, et cette relation qui nous invite, hein, et nous l'espérons un jour, à cette relation avec le Christ. Vous nommez Saint-Pierre et puis Saint-André aussi. Pierre a eu foi en Christ. Oui. C'est lui qui dit « Tu es le Christ ». Tu es le Christ. Donc il y a eu un dépassement de Pierre, il y a eu un courage de Pierre dans cette reconnaissance qu'il nomme, il ose, il se risque.
Oui, effectivement. Alors je les nomme Saint-Pierre et Saint-André parce que pour montrer que c'est dans l'évangile qui retrace un peu leur rappel, c'est que la foi n'est pas l'aboutissement d'un raisonnement, mais le point de départ d'une relation avec la personne du Christ. Et c'est le cas dans leur appel, c'est-à-dire que Jésus débarque, il les appelle à le suivre, et ils disent oui. Je pense que c'est au tout début de l'évangile, alors on ne sait pas très bien, mais j'imagine pas qu'ils aient une grande connaissance de la personne du Christ. Ils ont fait confiance en lui, et donc ils l'ont suivi. Et c'est après, à la suite de cette confiance-là, qu'ils vont petit à petit, leur intelligence va petit à petit s'éclairer. Mais c'est pas parce que on ne croit pas, parce que on sait beaucoup de choses, parce qu'on a vu beaucoup de podcasts sur Internet. On a écouté beaucoup d'émissions de radio, mais...
Beaucoup de vidéos, oui.
Mais la foi n'est pas l'aboutissement, n'est pas au bout d'un raisonnement, si vous voulez. La foi démarre avec une rencontre. Une rencontre avec la personne du Christ qui ensuite, petit à petit, vient éclairer notre intelligence et nous permet d'aller plus loin et de découvrir qu'on a eu raison de lui faire confiance. Mais il y a un moment donné où il faut, quelque part, se jeter à l'eau, sauter du 10 mètres. Alors, ça fait peur. Sauter du 10 mètres, ça fait peur, mais après, on est fier de l'avoir fait et on se rend compte qu'on a eu raison de le faire parce que ça fait pas mal et ça procurait beaucoup de sensations, quoi.
Vous l'avez fait vous-même, Don Félix. Henri, en répondant aussi à cette vocation du sacerdoce, dans une période, je rappelle que vous êtes encore un tout jeune prêtre, permettez-moi, redonné tout juste en 2020, vous avez fêté vos 5 ans de sacerdoce. Il y a eu quelques années qui ont précédé avec cette préparation aussi au séminaire. Vous avez été ordonné dans une période de l'Église, vous en avez parlé il y a quelques instants, qui a connu et qui connaîtra peut-être encore, l'histoire nous le dira, des abus violents de prêtres. Cela n'a jamais remis en question votre cheminement vers le sacerdoce, hein.
Alors,
parce que c'est une rencontre, on parle de relation, oui. Hein, voilà, on vous rencontre aujourd'hui et toute la semaine.
Alors j'ai eu la chance d'être assez préservé puisque la révélation du rapport de la SIAZ est tombée quand j'étais déjà prêtre. Donc, au cours de mon séminaire, j'ai été relativement préservé de tout cela. Alors, ça, évidemment, ça, toutes ces révélations m'ont profondément choqué, déçu, et fait réfléchir. Comment c'est possible que dans une même personne, si vous voulez, il y ait tant de grâces qui puissent passer, puisque certains des prêtres... Alors, je suis dans le diocèse de Lyon, alors vous imaginez bien que avec l'affaire Barbarin, le père Prénat, je suis dans une paroisse qui est limitrophe avec celle du père Prénat, à l'époque où il a agi, sévi.
Mmh.
Et en fait, ce qui est absolument incroyable, c'est que dans cette personne a cohabité une grande fécondité. C'est-à-dire que sa paroisse était remplie. L'été, il emmenait 4 bus de jeunes en camp. Beaucoup de gens sont convertis après ses homélies ou sa rencontre. Et en même temps, cette même personne cohabitait cette perversité qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui m'interroge, si vous voulez. Comment c'est possible ? Et en fait, ça me pousse, moi, en tout cas, à toujours reconnaître que je ne suis qu'un vase d'argile rempli d'une grâce qui me dépasse, la grâce du sacerdoce. Et donc, à ne pas m'identifier avec cette grâce. C'est-à-dire que non, je ne suis pas un vase en or parce que je contiens de l'or. je contiens de l'or, cette grâce que j'ai reçue lors de mon ordination et que je peux dispenser ensuite en donnant les sacrements. Mais je ne suis pas en or. Je suis bien fragile. Et donc, c'est une invitation à rester dans une profonde humilité, autant que c'est possible.
L'humilité du serviteur.
Oui, exactement.
Alors, puisque je reçois un des serviteurs du Seigneur dans la vigne du Seigneur, et c'est vous cette semaine, Don Félix-Henri Bouquet-Deschaux de la communauté Saint-Martin. À demain, même lieu, même heure. Et merci. Merci.